entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Gardien de mon frère. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Olga Mala, qui est donc présidente de l'association Aidons l'Ukraine Dijon. Et nous allons évoquer à la fois la situation des déplacés ukrainiens en France, ainsi que la situation ukrainienne du point de vue des gens, notamment, qui vivent dans notre pays. Bonjour Madame Mala.
Bonjour Thierry.
Concernant les déplacés, qui sont encore assez nombreux en France, même s'il y a eu des entrées et des sorties du territoire, comment on peut définir la situation actuelle ? Sont-ils plus nombreux, moins nombreux ? Quels sont leurs projets ? Enfin, dans quelle situation sont-ils après ces 3 ans de guerre ?
Alors, situation, on peut dire qu'elle reste stable. Nous, on n'a pas noté beaucoup de nouveaux arrivés, sauf que les changements se passent par rapport à l'état administratif, c'est-à-dire que les gens ils sont venus avec statut des Ukrainiens déplacés à cause de la guerre. Après 3 ans, ils ont vu que cette statut est donnée pour 6 mois, et du coup pendant 3 ans, ils ont obligé chaque 6 mois à changer des papiers, confirmer ça pour l'assurance, pour les travaux, etc. Donc, en certaine façon, ça est devenu instabilité pour les Ukrainiens. Et effectivement, avec changement de financement de l'État pour cette statut-là, les gens ils ont commencé à demander statut d'asile.
D'accord, oui, donc c'était un statut provisoire lié au fait que la guerre pouvait éventuellement se terminer, ce qui était le point de vue de la France, mais le point de vue des personnes qui, évidemment, espéraient pouvoir rentrer chez eux, qui leur donnait, je crois, un minimum, un pécule, enfin un peu d'argent, mais surtout le droit de travailler, je crois, ce qui est important.
Oui, 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 ça c'est très important, et bien sûr que les gens qui sont commencés à travailler, ils ont plus indépendants, bien sûr, mais dire c'est aussi quand même embêtant de changer papier chaque 6 mois.
Oui, parce qu'il faut, oui, vis-à-vis des employeurs, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, est-ce que ce statut existe toujours ?
Oui, ce statut existe toujours, mais il n'a pas, par exemple, le financement pour le logement. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir les statuts de protection temporaire, mais...
Donc le changement, c'est une baisse du financement de la partie hébergement-logement qui était géré, je crois, souvent par des associations intermédiaires.
Oui, exactement. Et ça, on a vu avec des associations, des communautés en France. Et ce problème était évoqué au Sénat par les sénatrices Nadia Sologoub, qui a proposé changement de loi, qui était déjà voté au Sénat, pour améliorer du coup, d'état de cette statut protection temporaire pour les Ukrainiens, pourquoi faire ? Alors, ce n'est pas seulement les questions de statut temporaire et les faire papier chaque 6 mois, mais c'est aussi d'être libre de rentrer à l'Ukraine, parce que si vous êtes demandeur d'asile, ça coupe psychologiquement beaucoup dans les têtes des gens qu'il faut avoir cette statut et vous ne pouvez pas rentrer en Ukraine pendant 4 ans minimum. Donc et ça, c'est ce qui nous embêtait beaucoup, à dire que ça limite les gens et psychologiquement c'est très très lourd de demander asile, que les gens toujours attendent fin de la guerre et toujours beaucoup ils ont envie de retourner vers leur famille.
Alors, vous parliez effectivement du fait que les gens passaient en demande d'asile. Est-ce que ça représente quoi ? Enfin, vous n'avez peut-être pas les chiffres, mais disons que ça représente une partie importante des gens qui ont demandé l'asile ?
Bah, on n'a pas de chiffres. C'est ça, on n'a pas de chiffres ni à Côte d'Or, ni en France. Mais selon les questions qui sont posées à nous comme association, selon les demandes et selon les discours entre les gens, oui. c'est les statuts plus rassurants pour les familles, pour les enfants, et de ne pas être aussi déplacé à l'intérieur de la France, parce que ça veut dire que si l'enfant il est bien installé à l'école, maman travaille, mais chaque 6 mois, selon les papiers temporaires, il peut être déplacé à cause de logement social qui est plus disponible, qui était bien temporaire. Et c'est ça, c'est pas stable pour eux, donc il veut du coup cette stabilité
Oui, alors vous avez évoqué, Madame Bala, le fait que vous avez parlé de femmes. C'est vrai que la population est majoritairement de femmes, notamment avec enfants, mais aussi de personnes âgées, puisque les hommes, la plupart des hommes sont à la guerre. Certains ont parfois fui pour d'autres raisons qui les regardent dans des pays limitrophes de l'Ukraine, mais en tout cas, les hommes ne sont pas forcément nombreux en France, puisqu'ils sont censés faire la guerre après, je crois, 25 ans, en tout cas passé un certain âge.
Oh, oui, on n'a pas beaucoup. Il y a certains qui sont venus plus tard. Bon, je ne peux pas vous dire avec quelle raison, est-ce qu'ils ont statut handicapé, et voilà, ou non. Et bien sûr qu'on a des personnes handicapées et personnes âgées. Et ça, je peux vous confirmer que aussi, au début de la guerre, on a eu des familles qui sont venues en France. Et après, c'était mamie, papy qui sont venus aussi après eux, rejoindre les familles et notamment aider avec les enfants. Parce que si maman elle travaille, on n'a
Tout à fait.
pas de garderie, ben c'est très difficile aussi pour trouver une solution.
Difficile et
Donc,
cher,
et cher,
très
voilà.
cher.
Parce que du coup,
C'est
on
un
a
problème général
des
en France d'ailleurs.
mamie, papy qui sont venus en France, c'est-à-dire qu'ils restent ici avec leurs petits-enfants pour aider maman de trouver un travail et
En tout cas,
avoir.
ce que vous dites, c'est que dans la tête de la plupart des déplacés, ils souhaitent retourner dans leur pays. Sauf peut-être une minorité qui travaille et qui est en train de faire son nid en France parce qu'ils travaillent, ils avancent, enfin, etc. Ou par l'asile ou par d'autres moyens. Mais en tout cas, on a vu, puisqu'on a eu la chance à la radio de recevoir un groupe dont vous faisiez partie pour réfléchir, échanger autour de la situation des déplacés. Certains ont trouvé un travail brillamment et se sont formés. Et donc peut-être ont envie de rester dans notre pays pour des raisons personnelles. Ça n'empêchera pas de retourner dans leur pays quand la guerre sera terminée, mais
Oui.
au moins pour visiter, bien entendu, puisque ça reste leur pays. Mais en tout cas, globalement, ce que vous confirmez, c'est que les déplacés souhaitent rentrer dans leur pays.
Oui, globalement, on a toujours, on pose les questions, qu'est-ce qui est prévu? Les gens, maintenant, ils répondent, on ne sait pas, on verra. Mais quand même, je trouve qu'il faut avoir cette possibilité pour rentrer en Ukraine à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il faut un petit peu améliorer les statuts de protection temporaire, pas que pour les Ukrainiens, mais pour tout le monde, que les gens ils restent libres, ils peuvent travailler et avoir cette tranquillité ici en France, attendant la fin de la guerre. Mais si la guerre est finie demain, qu'ils ont cette possibilité de rentrer en Ukraine, parce que effectivement il y a beaucoup de familles séparées. Les papas qui restent en Ukraine, et cette situation est bien difficile parce que, je ne veux pas vous cacher, il y a des mamans qui, voilà, qui approchent la frontière, ramènent les enfants voir mamie, papy, qui ne peut pas déplacer assez loin, ou papa. Et ça, il y a une majorité de familles comme ça, et bien sûr ils vont avoir cette envie de rentrer en Ukraine après fin de la guerre.
D'accord. Vous avez parlé donc d'un projet de loi. Alors, ce projet de loi en est où par rapport à au
Alors,
Parlement?
le projet de loi a été auditionné au Sénat et on est très content qu'on était parti de cette audition. Notre association a présenté les problèmes en France. Il y a beaucoup de questions qui ont été touchées par cette loi, notamment les statuts de docteurs, médecins ukrainiens, comment elles peuvent, par exemple, travailler en France. Les questions des permis de conduire étaient aussi touchées par cette loi. On a discuté les protections des personnes âgées, personnes handicapées. Effectivement, que les protections temporaires, ils ne couvraient pas cette population. Et certains changements ont été effectués, mais les lois étaient votées par Sénat. Et maintenant, on attend que ce sera voté à
Parlement.
l'Assemblée nationale. On espère que ce sera bientôt fait et que les gens vont arrêter de demander asile. Ils vont avoir
D'accord. Bon, sachant
amélioration.
que ça va être les vacances parlementaires, donc ce sera après, si tout va bien, puisque on ne sait pas du tout de quoi sera fait l'avenir
Ouais.
dans ce pays qui est quand même dans une situation d'instabilité
Voilà, vous voyez,
chronique.
toujours, je perds pas l'espoir que la guerre sera finie la semaine prochaine.
Alors, j'ai compris par la presse et par les échanges que nous avons avec les institutions que en Côte d'Or et au niveau de la région, il y a des liens très forts avec des régions ukrainiennes et que je crois qu'il y a des véritables échanges économiques, culturels, politiques entre la région de Bourgogne-Franche-Comté et certaines régions d'Ukraine.
Alors, oui, c'est 13 mai. Le 13 mai, la Bourgogne-Franche-Comté, notre région, la ville de Dijon, la ville de Vinnytsia en Ukraine et région de Vinnytsia, ils ont signé partenariat.
D'accord.
Ils ont signé partenariat pour travailler ensemble. C'est pas relation nouvelle. Alors, c'est-à-dire que ça existait avant, on a fait certains projets, je pense qu'on a déjà parlé, il y a un an, on a ramené 24 enfants qui sont perdus leur père à la guerre ici en Bourgogne pour 3 semaines à Dijon. Il y avait projets agriculteurs, notamment entre business, avant, même avant de la guerre avec ville de Vinnytsia et région de Vinnytsia. Et ils ont aussi les protocoles de travail a été voté récemment pendant les conseils régionaux, future coopération. Et il y a à certaines manières, la coopération entre CHU Dijon et les hôpitaux à Vinnytsia a commencé. Ils se mettent en place et voir comment elles peuvent travailler ensemble. Je participe un petit peu aussi là pour les aider. Donc oui, il y a des choses qui commencent. Par rapport à travail économique, culturel, oui, on a déjà des choses qui se passent. Mais économiquement, comme dit les vice-maires de ville de Vinnytsia, ils disent si nos relations du coup sociales et culturelles commencent à se développer, bah, le business vont voir ça quand aussi c'est stable et du coup à confiance. Donc le business va venir tout seul et il sera développé tout seul.
D'accord, donc c'est une affaire qui date d'avant la guerre et qui se
Oui.
structure et qui va se développer et qui va tenir compte, évidemment,
Oui.
j'imagine, des questions de reconstruction quand le temps de la reconstruction sera là. Alors, je parlais effectivement de. Vous parlez du partenariat entre la région et une région en Ukraine. Alors, ça renvoie aussi aux réactions qu'on a vues, parfois très négatives, hein, d'une partie des élus de la région, qu'on retrouve dans toute la France, c'est-à-dire qu'un certain nombre de partis politiques et d'hommes politiques sont très réticents au soutien de l'Ukraine et parfois même ont des liens privilégiés en termes culturels et même en termes concrets avec la Russie. Et c'est peut-être l'occasion de parler de l'information et de la désinformation en France. Ce problème n'est pas réglé puisque on entend et on voit sur les plateaux de télé ou ailleurs encore beaucoup d'hommes politiques ou des journalistes continuer à tenir, on va dire, le discours qui était plutôt le discours de la Russie et le discours pro-russe qui est quand même très installé dans le paysage français. Et comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez les choses évoluer? Qu'est-ce qui est fait pour essayer d'améliorer la situation en termes de connaissance vraiment de l'évolution de l'Ukraine et des choix des Ukrainiens?
Oui, mais je suis d'accord avec vous que moi je pense que c'est pas un problème d'Ukraine ou la guerre de l'Ukraine, mais c'est le problème global. pas qu'en France, mais dans tout le monde, presse libre et désinformation, c'est partout maintenant. Donc, je peux dire que l'information en France reste globalement libre et pluraliste, mais bien sûr qu'on a des narratives russes qu'on attend bien. Et ça, ça nous fait bien sûr triste, mais je vois que la France quand même réagit, peut-être pas assez vite, mais il y a un blocage de canal russe, par exemple le Sputnik, qui était bloqué en France. C'est-à-dire que la France, elle comprend qu'il y a des désinformations qui viennent de cette média-là. Et bien sûr, il y a des travaux de médias français pour informer le public à la manière rigoureuse. Mais il faut vérifier le fait, il faut faire un effort pour vérifier l'information. Mais on ne peut pas aussi mettre ça sur canal et sur radio, etc. Je trouve que on commence l'époque où il faut avoir cette pensée critique à vous-même et vraiment vérifier l'information partout et juste pas penser à une chaîne de télé qui vous diffuse une information. Et il faut vraiment analyser tout ce qui vous voyez. Et bien sûr que la Russie mène clairement une guerre de l'information en diffusant des narratifs destinés à confuser les gens, diviser l'opinion publique et affaiblir les soutiens européens à l'Ukraine et pour l'Ukraine. Et oui, on voit ça c'est clairement. Et ces messages passent par des médias interdits, mais contournant parfois les interdictions grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, il faut s'y méfier beaucoup aussi, ou influenceurs qui sont présents dans ces réseaux sociaux. Et c'est vrai que défi démocratique, c'est un vrai défi démocratique parce qu'une démocratie a besoin de citoyens bien informés pour débattre et décider libéralement. Donc la désinformation mine la confiance, fragilise la cohésion nationale et sert parfois des intérêts étrangers. Donc en France, je vois que les mesures ont été prises, donc blocage de certains médias russes et surtout vigilance de journalistes sur certaines plateformes. Mais bataille continue et je pense que peut-être grâce à technologie qui existe et à intelligence artificielle, peut-être on peut réduire cette production de fausses images et deepfakes en France. J'espère. Et comme je vous avais dit, je trouve que finalement, protéger une formation et défendre des projets démocratiques et la démocratie en France, il faut aussi travailler avec la population et expliquer plus qu'est-ce qu'il y a et des narratifs russes et qu'est-ce qu'il y a de désinformation, qu'est-ce qui n'est pas vrai et comment il faut chercher, analyser et prendre l'information qu'on reçoit.
Je pense que sur Shalom Bourgogne, on fera une émission consacrée à l'histoire, à l'évolution de l'Ukraine et de la volonté politique des Ukrainiens, parce que je pense que c'est nécessaire. Alors, je ne sais pas vous, votre sentiment, nous, notre sentiment, moi, je n'ai pas regardé les études d'opinion, mais c'est que je ne suis pas sûr que les gens aient une conscience aiguë du fait qu'il y a un véritable projet national et démocratique maintenant en Ukraine, très ancré, avec une société qui évolue. Et je ne sais pas si on se rend compte aussi de la force, de la puissance du peuple ukrainien qui lutte avec quand même beaucoup de morts dans une période en plus qui est de plus en plus difficile. Il y a énormément de morts sur le front, mais aussi aujourd'hui avec les bombardements, on a tous les jours des immeubles détruits, des populations civiles qui sont touchées. On a l'impression, mais là je me trompe peut-être, que finalement ça a disparu un petit peu des préoccupations quotidiennes des Français, comme si cette guerre était finalement assez loin. Et puis quand on parle de la guerre qui pourrait venir, on entend plutôt des réflexes pacifistes en disant « oui, mais ça ne nous concerne peut-être pas tant que ça ». Donc il y a quelque chose d'un peu confus. Je ne sais pas vous, comment vous ressentez les choses dans les conversations que vous avez, notamment avec les Français, à titre privé ou dans votre association ?
C'est vrai qu'il y a moins d'informations sur les médias français, c'est dommage, mais je comprends que aussi ça a la façon fatigue morale des gens, les Français aussi. Et c'est dommage, bien sûr que c'est dommage qu'il y a des choses très très graves qui se passent en Ukraine, et notamment la nuit dernière, ils ont tombé plus que 700 drones et missiles en Ukraine. C'était une nuit horrible, et pour vous dire qu'on a parlé au début de 50 drones, hein, c'était un cauchemar et effrayant, mais vous pouvez imaginer, pendant une nuit, ça tombe plus que 700 drones et missiles et fusils en Ukraine, c'est de ouf. Les gens, ils ont bien sûr, dorment pas, ils sont fatigués. Et on parle peu, mais je trouve que je ne peux pas dire que c'est le problème de la France. Je pense que c'est le problème global aussi, que chaque conflit, chaque problème, les gens sont fatigués d'attendre. Mais ce qui est très important, que l'Ukraine est entendue par le gouvernement, par l'Union européenne, par la conseil régional, par les régions, par les mairies, même si on ne diffuse pas tous les jours l'information sur les médias, je pense que c'est très important qu'il y ait une coopération, il y a une signature des partenariats, il y a une reconstruction qui se passe. C'est ça le plus important. Et effectivement, on ne peut pas aussi fatiguer les gens avec l'information tous les jours. Malheureusement, on habitue avec certaines informations par rapport à la guerre, par rapport à d'autres conflits ou des problèmes en France ou au monde. Et il faut évoquer de temps en temps. Il faut aussi savoir donner cette information aux médias pour que les gens ils restent informés.
Vigilants, oui.
Oui, vigilants, oui.
Oui, sachant, je rappelle, pour situer votre propos, sont notamment l'état de l'agression militaire russe. On est le 10 juillet, au moment où nous enregistrons l'émission, pour bien situer effectivement votre propos. Alors je voulais, avant qu'on se quitte, évoquer, en prenant le temps, si c'est nécessaire évidemment, la question des enfants enlevés et russifiés, qui est un véritable sujet d'une importance extrême, qui pourrait permettre d'ailleurs d'accuser la Russie d'un certain nombre de crimes majeur par rapport au droit international. Donc peut-être nous parler de ce dossier qui commence à être connu, mais qui n'est pas suffisamment.
Oui, et juste hier, je pense que le président Orban, le président Volodymyr Zelensky a déclaré, après sa rencontre avec le pape Léon, qu'il avait discuté des efforts supplémentaires du Vatican pour le retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Donc, vous pouvez voir que notre présidente Zelensky, elle ne laisse pas cette question-là, cette problématique, comme vous avez dit, qui est très, très sombre, question et problème, les enfants.
Alors, peut-être nous rappeler, hein, la problématique.
Ah, oui, je vais vous expliquer. Du coup, c'est depuis le début de la guerre, selon les portails nationaux, enfants de guerre en Ukraine, près de 20 000 enfants ukrainiens sont actuellement portés disparus ou considérés comme déportés en Russie ou dans les territoires temporairement occupés. À ce jour, seuls un peu plus que 1240 enfants ont pu revenir en Ukraine. Je vous donne les chiffres officiels, des chiffres que, pas officiels, les gens disent, ils ont beaucoup beaucoup, beaucoup plus que 20 000 enfants. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas savoir, c'est les territoires occupés, on ne sait pas combien les enfants sont partis, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est pas clair, mais en Ukraine, on est sûr que c'est plus que 20 000 enfants enlevés. Et parmi eux, du coup, il y a 450 enfants provenant du sud de l'Ukraine, notamment des régions Zaporijia, Kherson et Mariupol, du coup, les régions occupées. Beaucoup ont été répatriés grâce à l'organisation Save Ukraine, qui a permis les retours de plus que de 600 enfants depuis le début d'invasion, malgré des opérations souvent très risquées. Et je ne sais pas si vous êtes au courant que depuis un moment, en mars 2023, des mandats d'arrêt par les cours pénales internationales contre Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, la Russie a commencé à dissimuler davantage ses enfants, à changer leur identité et à compliquer toute tentative de les répatrier. Donc, les autorités russes créent des multiples obstacles administratifs et logistiques et certains enfants sont même déplacés de foyer en foyer pour les rendre introuvables. Et je ne me rappelle pas, il y a 2 mois, quand le président Zelensky était en Turquie pour négociation avec les Russes, il a évoqué cette question. Et c'est la première fois que les Russes disent qu'on ne parle pas des 1000 des enfants, on parle de centaines. Et du coup, Zelensky a utilisé cette phrase et il a dit qu'à certaines manières, ils ont confirmé avec cette phrase que les enfants étaient volés et enlevés par la Russie. Donc, c'est une situation très, très difficile et il fait presque pas possible de rentrer les enfants, mais l'Ukraine, il a eu campagne nationale et il n'arrête pas à parler des enfants parce que c'est notre futur. Les enfants... pas que orphelins, mais c'est aussi les enfants qui sont parents en Ukraine, aux familles en Ukraine. Là, ils rencontrent qu'ils sont russes, ils font propagande russe, et comme dit, brainwashing, lave la tête des enfants contre l'Ukraine. Voilà.
Donc, mais dans les écoles russes, et oui, je m'ai entendu dire que certains enfants qui approchent de la fin de l'adolescence... sont enrôlés dans l'armée russe pour venir combattre sur le front ukrainien.
Oui, à partir de 5e classe, à peu près 10 ans, ils commencent à parler qu'il faut devenir les soldats russes et aller protéger l'Ukraine. Et aujourd'hui, cette question-là, c'est aussi une question essentielle pour l'Ukraine, pour les conditions posées par l'Ukraine dans la perspective de négociations de paix. Vous voyez que c'est assez très très important que pour l'Ukraine arrêter aussi cette vol et retourner les enfants parce que du coup nous considérons cet enlèvement comme non seulement comme une violation grave du droit international humanitaire mais aussi comme une tentative de libérer d'effacer l'identité ukrainienne, c'est comme génocide.
Oui, ça ressemble.
Il y a certains journalistes et certains qui disent que c'est génocide ouvert contre les Ukrainiens.
Oui, pour faire disparaître la population.
Exactement.
L'identité ukrainienne. Pour conclure, enfin, provisoirement, bien entendu, on a l'occasion de se revoir autour de ce micro. Pour vous, parce qu'on entend ici tout et son contraire, c'est compliqué de suivre, hein. Il y a moins d'informations que vous l'indiquez. En plus, ça demande évidemment à la fois d'être en temps réel, mais aussi d'avoir beaucoup d'informations de qualité. Quel est votre sentiment ? La nation ukrainienne, malgré des contradictions, des difficultés comme dans tout moment de guerre, est-ce que vous sentez les gens toujours aussi déterminés aussi engagé à mener le combat jusqu'au bout, ou est-ce que les fractures qui existent un peu, mais comme dans tous les pays, dans toutes les guerres, est-ce que, en tout cas, quel est votre sentiment par mm-hmm. rapport à cette période si difficile pour l'Ukraine?
Je pense qu'il y a des hauts et des bas, comme pour tout le monde, comme pour chaque problème, même dans notre vie quotidienne. Et je parle à mes amis à Kiev, je parle à ma famille à l'est, sud, et je vois que, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais c'est continu, ils croient toujours en paix, toujours en victoire, toujours en démocratie, toujours en Ukraine. Il n'y a pas de chance de perdre les territoires, il n'y a pas de chance de perdre la guerre. Il veut être ukrainien, et je pense que avec tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, tout ce qui se passe avec la guerre, réaction de guerre, et comment ils se battent, je pense que les Ukrainiens sont de plus en plus fiers d'eux, comment ils tiennent, comment ils se battent, et néanmoins, ils continuent à vivre, ils continuent innover, ils continuent créer. Ça pousse aussi de trouver à la façon l'économie ukrainienne marche, que les gens survivent. Et ça, on parle aussi de coopération entre France et Ukraine, c'est aussi pour innovation, pour les solutions médicales qui, par exemple, apparaissent en Ukraine, mais n'existaient pas, n'existeraient plus jamais en France. Mais donc, il faut trouver toujours un espoir et des points positifs autour de tout ce qui se passe, et soutien de famille aussi, rester ensemble pour garder cet esprit. Et je pense que ce que je vois maintenant, les Ukrainiens, ils réussissent à garder cet esprit, ils continuent à croire, ils continuent à battre, ils continuent à aider les soldats au front, ils continuent à faire les dons, demander l'argent, faire les projets, et notamment ce que nous, on essaie aussi de faire comme association, soutenir les projets internationaux entre France et l'Ukraine, soutenir la reconstruction en Ukraine, parce qu'on a très peu parlé, mais c'est aussi reconstruction de la ville, on ne parle pas d'économie globale, mais des choses urgentes pour soutenir les gens et donner cette possibilité de vivre normalement ailleurs de bombardements.
On a vu d'ailleurs quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que, évidemment, il y a des problèmes de santé mentale et des problèmes de santé physique, puisqu'il y a énormément de blessés, énormément d'amputations, par exemple, et on s'aperçoit qu'il y a une réactivité incroyable, un très gros travail des chirurgiens, et l'organisation d'énormément de soutien psychologique par des professionnels. Donc on voit une dynamique incroyable autour de cette question aussi, des gens blessés, des gens qui ont souffert, pour préparer la suite, parce qu'on sait que quand il y a une grosse population militaire qui rentre après la guerre, ça peut poser des problèmes. On l'a vu aux États-Unis après la guerre du Vietnam, on l'a vu en France aussi. Donc là, on sent aussi une dynamique effectivement très particulière. Ça, oui, c'est effectivement important.
Oui, oui, bien sûr qu'il y a une dynamique, mais bien sûr que maintenant, les mondes de santé se développent, et il faut réagir plus vite. Il faut réagir plus vite pour les problèmes physiques et psychologiques. Mais je pense que aussi après la guerre, l'Ukraine va devenir un centre aussi de scientifique, de professionnel, à comprendre comment ça a été fait, qu'est-ce qui a été fait, parce que, comme je vous avais dit, il y a beaucoup d'innovations, parce qu'il faut réagir, il faut améliorer cet problème, il faut trouver des solutions qui n'existaient pas peut-être dans le monde. En Europe, c'est sûr, c'est les syndromes des post-traumatiques après la guerre, et reconstruction pour les chirurgiens, les traumatismes. Donc, on va voir aussi de nouveautés, on va voir aussi des gens qui, on va, où j'ai déjà qui, les docteurs s'intéressent à voir comment les techniques étaient améliorées en Ukraine.
Très bien. Je rappelle que nous étions avec Madame Olga Mala, donc de l'association Aidons l'Ukraine Dijon. Et nous avons ce matin évoqué la situation des déplacés ukrainiens depuis la guerre sur le territoire français, les liens qu'il y a entre la France et notamment la région Bourgogne-Franche-Comté et certaines régions ukrainiennes, mais aussi toute la question de la désinformation, toute la question du projet aussi du développement de la nation ukrainienne. En tout cas, à bientôt sur Shalom Bourgogne. Merci beaucoup, Madame Mala.
Merci beaucoup, Thierry. À bientôt.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.